J'aurais commencé par évoquer un paradoxe, parce que là, on a quand même dressé le panorama d'une situation assez critique. Et pour autant, quand on regarde les données de l'INSEE, eh bien, le pouvoir d'achat des consommateurs par unité de consommation en 2022 n'a baissé que de 0,4%. Et les prévisions des conjoncturistes, notamment de l'INSEE, c'est a priori, on devrait être très près du zéro en 2023, avec un décalage entre un premier semestre qui est plutôt négatif et un second semestre qui devrait être meilleur. Donc en fait, le choc macroéconomique sur les ménages, il est extrêmement modeste. Extrêmement modeste, et donc il y a une sorte de disproportion entre ces données macro et la réalité des comportements des consommateurs. Donc il y a deux réserves à formuler qui peuvent aider à comprendre le paradoxe. Tout d'abord, finalement, l'inflation, enfin l'indice des prix, c'est l'observation d'un très très grand nombre de prix qu'on va pondérer selon l'importance de différents produits et services dans le budget des ménages. Donc évidemment, c'est une sorte de moyenne pondérée, si vous préférez, et dedans, il y a des postes beaucoup plus inflationnistes que d'autres, et vous le connaissez, ça a été d'abord l'énergie, et ça a été rappelé à l'instant, hein. Et l'alimentaire. L'alimentaire, donc, on a surfé avec du 16-17%. Et encore, là aussi, c'est un agrégat. Il y a certains produits qui ont décollé quasiment à 30%. Quoi. Donc là, ça fait jouer un biais cognitif bien connu, qui est l'effet de halo. C'est-à-dire que si vous interrogez les gens dans la rue sur quel est le niveau de l'inflation, ils vont très certainement être beaucoup plus près du taux d'inflation de l'alimentaire que de l'indice des prix à la consommation. Et pourquoi ? Parce qu'on a très peu de prix en tête, en fait, hein, et que notre idée de l'inflation se fonde sur un tout petit nombre de prix, et plutôt des prix des produits auxquels on est confronté régulièrement. Donc l'essence, hein, en plus, c'est affiché dans les rues. Hein, donc quand on franchit la barre des 2 euros, ça saute aux yeux, si vous voulez. Et puis, alors si ce n'est pas forcément chaque produit qu'on achète dans les supermarchés, il y a une sorte de conscience du prix du caddie, quoi, si vous voulez. Voilà. Et donc là, tout de suite, hein, le prix du caddie effectivement a décollé, hein, et ça nous amène à considérer quoi, il y a eu quelque chose d'assez monstrueux. Quoi. À ça, une deuxième réserve, c'est que ben, c'est aussi une moyenne sur l'ensemble des Français. D'ailleurs, la pondération hein, entre postes budgétaires qui rentrent dans l'indice des prix correspond à une pondération moyenne sur l'ensemble des Français. Or, l'exposition à cette inflation a été inégale selon les catégories de ménages. Et en gros, la double peine, hein, ça a été d'être pauvre en milieu rural, voilà, parce que là, vous avez un poids du budget alimentaire qui est plus important à mesure qu'on descend dans l'échelle des revenus, et le coût de l'énergie est croissant à mesure qu'on s'éloigne des villes, si vous voulez. Et donc, effectivement, peut-être que le choc global de pouvoir d'achat est assez modeste, mais sur certaines catégories, il peut être assez violent, et c'est une banalité que je veux dire, mais même descendre d'une ou deux marches seulement en termes de pouvoir d'achat, quand on est en haut de l'échelle des revenus, c'est jamais agréable, mais quand on est en bas, on arrive rapidement à l'os, si vous voulez, quoi. Et donc, même si l'ordre de grandeur reste raisonnable, eh bien, l'impact effectif, et là, c'est pas seulement un effet psychologique, hein, peut être extrêmement important. Et donc, tout ça, ça a provoqué des arbitrages. Peut-être disproportionnés, mais quand même des arbitrages, à différents niveaux. Premier niveau, le plus macro, hein, entre consommation et épargne. Dans un tout premier temps, les ménages ont essayé de garder à peu près les mêmes comportements de consommation et donc ont eu tendance à réduire leur effort d'épargne, voire pour les plus modestes, à les piocher dans l'épargne. Mais très vite, inversion de la tendance et le taux d'épargne est remonté. Pourquoi ? Manque d'appétence à la consommation, on n'a pas très envie de consommer, l'ambiance n'est pas bonne, et puis surtout, vu les incertitudes qu'on a devant nous, ben, volonté de constituer une épargne de précaution, quoi. Et donc là, on est à un niveau d'épargne qui est assez sensiblement supérieur au niveau qu'on avait auparavant, on était autour de 15-16%. Là, on est autour de 18%. Quoi. Et quand dans les enquêtes qualitatives, hein, les gens nous disent effectivement que c'est plutôt le moment d'épargner beaucoup plus que le moment de dépenser. Puis, de surcroît, l'augmentation des taux incite à épargner effectivement. Donc ça, c'était un premier niveau d'arbitrage défavorable à la consommation. Ensuite, dans la consommation, bah, évidemment, tout ce qui peut être reportable, tout ce qui est coûteux est reportable. Donc je désigne évidemment les biens durables. Eh bien, on se dit c'est pas le moment, quoi. Hein, donc les biens durables ont été les premiers affectés. Alors si on prend l'automobile en plus, vous rajoutez les pénuries hein, de composantes et vous avez tout ce qu'il faut pour avoir des primes du marché. Mais plus étonnant, c'est que les PGC, donc, et notamment donc, l'alimentaire, a été une variable d'ajustement. Et ça, de mémoire d'économiste de la consommation, je crois qu'on ne l'a jamais vu, en tout cas pas aussi intensément et aussi longtemps. Voilà, on a eu en 2007-2008, on a eu une petite poussée comme ça, mais qui n'a pas duré longtemps, parce que ça a été arrêté par la crise des subprimes. Dans nos enquêtes, on demande aux personnes qu'on interroge dans quelle mesure ils ont le sentiment de s'imposer des restrictions sur leurs dépenses alimentaires pour des raisons financières. Et on leur demande en fait de mettre une note allant de 0, aucune restriction, 10, extrêmement forte restriction. Et bien, en mars, dernière mesure hein, de cette question, 44% des Français ont mis 7, 8, 9 ou 10. 44%, et on a pris 10 points par rapport à la même mesure réalisée avant la poussée inflationniste. Ça veut dire que, effectivement, l'alimentaire est devenu un poste arbitrable, et ça se voit donc dans les données de marché, puisque, ça a été dit, hein, baisse des volumes, mais sur une période longue. Alors, moi, j'ai pas 10%, hein, j'ai plutôt 4, 5% depuis le début de l'année, quoi. Et par rapport à 2019, en fait, le déficit en volume est moins important. Mais on est quand même en négatif. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez étonnant. Un poste de dépense primaire, comme l'alimentaire, est devenu un poste arbitrable. Alors l'habillement aussi, évidemment, hein, peut-être plus que l'alimentaire. Mais peut-être que... on hiérarchise les besoins un peu différemment. Il semblerait que les services de restauration, ça marche très bien. On n'a jamais eu autant de réservations pour les vacances d'été. N'oublions pas encore une fois hein, les différences selon les catégories de ménages. La crise sanitaire a eu un effet terrible. Ça a plutôt appauvri les plus pauvres et ça a enrichi les plus riches qui ont finalement beaucoup plus déconsommé que les plus pauvres et ont accumulé une réserve d'épargne énorme qui leur permet aujourd'hui d'affronter cet épisode inflationniste avec un petit matelas de sécurité qui leur permet par exemple de partir en vacances éventuellement très, très loin. Mais n'oublions pas les autres, hein, donc ceux qui sont en bas. Et dans notre enquête, quand on demande aux gens qui s'imposent des restrictions comment ils opèrent ces restrictions, il y a 15% qui nous disent qu'ils ne mangent pas à leur faim. 15% qui nous disent qu'ils ne mangent pas à leur faim. Vous voyez qu'on est dans une société quand même très duale, hein, que cette crise inflationniste s'ajoute à d'autres facteurs pour accentuer la bipolarisation de la société. On parlait de climat social, c'est pas très bon pour le climat social. Alors, ensuite, dans l'alimentaire, mais ça, vous êtes bien placé pour le savoir, encore des nouveaux leviers d'arbitrage. Globalement, on observe un mouvement vers des aliments moins coûteux. Vous l'avez observé sur votre marché, hein, c'est pas le pur jus, on va passer au concentré, voire au nectar. Enfin, je sais pas si c'est en ce sens-là qu'il faut le dire.
Si.
Donc c'est très clair, une autre échelle, on pourrait dire, là on est dans la catégorie, si vous voulez, mais entre catégories, moins de viande rouge, moins de poisson, le poisson a été très inflationniste, hein, et on va manger de la viande blanche ou des œufs, même si c'est inflationniste, c'est les valeurs unitaires qui sont moins importantes. Il y a eu un transfert massif, mais je vous le savais aussi, des marques nationales vers les MDD, et au sein des MDD, les MDD premier prix. Et tout ça n'est pas neutre, parce que ce qu'on avait observé dans nos enquêtes sur l'alimentaire depuis longtemps, c'est qu'il y a une poussée très forte et très généralisée de l'envie de consommer sain, de consommer de la qualité. Et ça, quel que soit le niveau de revenu, il y a une aspiration à consommer sain, parce que ma santé, parce que mon nombril, parce que, etc., pour un tas de raisons sociétales extrêmement profondes. Et donc, ce qu'on observe finalement à travers ce genre d'arbitrage, c'est un renoncement à la qualité. Un renoncement à la qualité, je vous donne un chiffre ici encore une fois de nos enquêtes, on demande aux gens aussi, en matière alimentaire, hein, ils préfèrent maximiser la qualité, tant pis si ça coûte plus cher, ou optimiser le budget, tant pis s'il faut renoncer à la qualité. D'accord ? Eh bien, minimiser le budget, tant pis s'il faut sacrifier la qualité, en mars, 58%. En 2016, c'était 41%. Les courbes se sont inversées. Donc, en gros, on renonce à la qualité, mais l'appétence pour la qualité, l'exigence de qualité est toujours là. Donc, vous imaginez comment c'est vécu. Bien manger, ça semble être un droit. Hein. Bien nourrir sa famille, ses enfants, c'est un droit. Mais je n'y parviens plus. Je suis obligé de me retrancher vers des produits que je sais être de moins bonne qualité. Quoi. Là aussi, frustration, ressentiment, ça alimente un climat social délétère. Enfin, dernier niveau d'arbitrage, mais ça, je vous le savais aussi, entre circuits de distribution. Alors, dans le monde de la GSA, bah, c'est les moins chers qui ont tiré les marrons du feu et qui ont pris des parts de marché, Leclerc, Lidl, Aldi, etc. Et puis, plus globalement, si on élargit, alors ça fait le bonheur des déstockeurs. Action, en l'espace de 5 ans, est devenue l'enseigne préférée des Français. Quoi. Voilà. Alors, ça vous concerne assez peu. Il y a un peu d'alimentaire, quand même, dedans, hein, mais je ne sais pas s'il y a des jus de fruits, mais les déstockeurs sont... voilà. Alors, c'est spectaculaire, c'est violent, vous êtes en première loge pour le subir, mais ça a été dit, cet épisode est en train de se terminer. Ce matin, là, apparemment, le patron de l'ANIA a dit qu'entre juillet et septembre, on aurait une baisse des prix de 7,5 à 10%. Allez, vérifier sur le... Pardon ? Oui, bah, enfin, il l'a dit dans la presse, et puis ça n'a pas tombé là en oreille d'un sourd du côté de Bercy, à mon avis. Absolument. Bon, en tout cas, ça a été rappelé, les fondamentaux, en tout cas sur le court moyen terme, les fondamentaux sont bons, on va rentrer dans une logique de désinflation, et vous avez bien raison de le dire, désinflation ne veut pas dire baisse des prix, hein, ça veut dire ralentissement de la hausse des prix, on ne va pas revenir au niveau des prix d'origine. Et pour l'instant, même si on craint effectivement un effet salaire-prix, pour l'instant, les salaires n'ont pas suivi, hein, donc il y a une vraie perte de pouvoir d'achat. Moi qui suis fonctionnaire, je peux vous le confirmer. 3,5 l'année dernière, 1,5 cette année. Je veux dire, on est quand même très très loin du compte. Alors évidemment, ça ne rentre pas dans les coûts de production des industriels et des produits de consommation. Mais bon, bref. Alors, donc c'est pour ça. Ça va se calmer. Et, je sais que quand on est chef d'entreprise, on est toujours à surmonter les obstacles conjoncturels. Il y a toujours un nouvel obstacle qui vient. Il faut sauter la haie. C'est compliqué. C'est compliqué. Le risque, c'est que du coup, on ne voit pas la ligne d'horizon, quoi. Et la ligne d'horizon, elle peut imposer des changements structurels. Et je pense qu'on en est là. Alors, parmi les éléments de la ligne d'horizon, ça a été dit, hein, on a la transition écologique, quoi. Ça, c'est une évidence. Et ça va coûter. Ça va coûter, ça va créer de l'inflation et ça va peser durablement sur le pouvoir d'achat des ménages. Je vous engage à lire le rapport Pisani-Ferry. On peut critiquer un tas de choses, mais enfin, je crois que c'est l'étude la plus approfondie qu'on ait fait sur l'impact de cette transition. Ça va peser sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc il va falloir quand même s'habituer à avoir des ménages qui vont devoir durablement réviser leurs arbitrages. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas revenir à des consommations de qualité, par exemple, mais ils vont arbitrer différemment, moins sur l'effet d'un choc conjoncturel assez violent que sur l'installation dans un régime permanent. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir en tête quand même les éléments de fond. Alors parmi les éléments de fond, j'ai conscience que le temps passe, je vais aller vite. N'oublions pas la dynamique vers une consommation responsable. Ça a été évoqué. Nous venons de rendre public la deuxième vague de notre observatoire de la consommation responsable, que nous menons avec Citeo d'ailleurs, et qui nous montre en gros qu'il y a, quelle que soit la manière dont on prend le problème, une petite érosion. On avait fait la première vague en 2020, une petite érosion par rapport à 2020. Et quand on regarde encore plus près d'ailleurs, cette érosion sur la dimension réellement responsable de la consommation, elle est masquée par une sorte de poussée de la sobriété subie. En fait, hein, on peut faire la sobriété voulue, on est convaincu, on adapte ses comportements, et on peut être contraint de consommer de manière sobre. Donc notre étude consiste à demander aux gens s'ils font ceci, cela, s'ils ont arrêté de faire ceci ou s'ils font plus cela. Donc on essaie d'appréhender des comportements, on met tout ça dans la machine, on arrive finalement à un total de 40% de Français qu'on peut considérer engagés significativement dans la consommation responsable. Mais parmi eux, certains le font sans le savoir, en réalité. Ben, on parlait tout à l'heure de la sobriété énergétique pendant cet hiver. On n'a pas réduit le chauffage parce qu'on était convaincu que c'était bon pour la planète. On l'a réduit pour réduire sa facture énergétique, tout simplement, quoi. Donc voilà, une petite érosion, mais ça n'enlève rien à l'idée quand même que les Français sont acquis à l'idée de la gravité de la situation environnementale et la nécessité de réviser nos modes de consommation et nos modes de production. Donc là, on est sur une vague de fond. Qui se traduit, hein, qui se traduira de plus en plus dans la consommation. Si je prends l'alimentaire, alors évidemment le bio, hein, c'est le contre-exemple, mais quand même avec un écart de prix tellement important qu'il a pâti d'arbitrage, même si le déclin avait commencé avant la poussée inflationniste. Donc il n'y a pas que le problème du prix pour le bio, mais c'est un autre sujet. Mais ça a été déplacé, cette demande de consommation plus responsable dans l'alimentaire a été déplacée vers le local, où on a le sentiment, à travers sa dépense, de soutenir un tissu économique local auquel on est attaché. Ça avait été poussé très fort pendant la crise sanitaire. Et puis, notre enquête le montre, on est toujours dans une dynamique vers un régime alimentaire moins carboné. Là aussi, on a demandé aux personnes qu'on a interrogées, est-ce que par rapport à il y a 2 ou 3 ans, c'est vague, hein, mais on est dans le moyen terme, vous avez l'impression de consommer plus, de consommer moins, de consommer moins, de consommer autant ou de plus consommer du tout telle ou telle catégorie de produits. Et donc, on a confirmation en 2023 de ce qu'on avait observé en 2020, globalement, une dynamique de carbonation du régime alimentaire des Français. Moins de viande, hein, je fais l'essentiel, moins de viande, plus de fruits et légumes. Mais ça tombe bien, dans la liste des produits, on avait mis les jus de fruits. Les jus de fruits, et vous allez voir les résultats, 29% des Français interrogés nous disent avoir réduit leur consommation de jus de fruits, 11% disent l'avoir supprimé, et 9% disent l'avoir augmenté. Donc on a un solde largement négatif. Donc dans cette dynamique vers une réforme du régime alimentaire, manifestement, les jus de fruits, mais c'est vrai de l'ensemble des boissons, hein, je vous rassure, pâtissent de cette modification des habitudes alimentaires. Donc là, vous avez un choc conjoncturel qui se manifeste par des prix relatifs défavorables. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ça quelque chose de plus fondamental, malgré effectivement que ce soit un produit sain, etc., enfin qu'il y a toutes les qualités que vous avez rappelées, est-ce que ce n'est pas vécu aussi comme un produit dont il faut peut-être réduire sa consommation pour des raisons structurelles, peut-être tout simplement l'emballage, les transports, enfin voilà, c'est à méditer. Je mets ça en parallèle d'un autre point qu'on a observé dans cette étude, une extrême dynamique, très forte dynamique du faire soi-même. Les Français adorent faire eux-mêmes, et à chaque fois qu'on mesure ça, on observe une croissance du faire soi-même par rapport aux années précédentes. Et ça tombe bien, parmi les pratiques de faire soi-même, on avait mis les jus de fruits. Tiens. 30% des Français disent faire eux-mêmes leurs jus de fruits. Alors c'est vrai que le prix relatif est tout à fait défavorable. Je ne suis pas sûr que les gens aient cette conscience, hein, ceci dit, hein, que ça coûte 4 fois plus cher, si j'ai bien compris. Hein, 4 fois plus cher que d'acheter un jus de fruits préparé. Mais vous savez, quand on interroge les gens sur pourquoi ils font eux-mêmes, la question du prix, c'est secondaire, en réalité. Ce qu'ils vont vous dire, c'est le plaisir de faire soi-même. Et puis, ne pas négliger, ben, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Quoi. Et là, ça nous renvoie quand même à une posture globale de défiance que les consommateurs ont à l'égard de ceux qui leur vendent des choses. Et notamment, plus ils sont gros, plus on s'en défie. Plus on s'en défie. Donc, le faire soi-même, attention, c'est peut-être une des raisons... Hein, du ralentissement de votre marché, si je compare par rapport aux vagues antérieures de nos études, donc 30%, c'est 2% de plus qu'en 2020, c'est 6% de plus qu'en 2018. Donc une poussée du faire soi-même sur les jus de fruits, hein, et qui rentre dans une dynamique globale de la poussée du faire soi-même. Enfin, pour vous donner peut-être quelques pistes de réflexion pour redynamiser le marché, mais je sais que vous avez déjà avancé là-dessus, hein, si on s'intéresse aux fondamentaux de la société contemporaine, au-delà des épisodes conjoncturels, on est toujours dans l'obsession du bien-être, la recherche du plaisir, mais aussi la crise du progrès. On a très très peur de l'avenir, on est extrêmement pessimiste. Et quand on est pessimiste, on a envie d'être rassuré. Alors, rassuré au sens strict, hein, de la protection, de la sécurité, ça vous fait tout ce qu'il faut effectivement pour garantir la sécurité de vos produits. Mais sur un registre plus imaginaire, plus immatériel, ça crée de la perméabilité au registre de la tradition et de la naturalité. On est extrêmement sensible depuis longtemps, hein, dans l'alimentaire, à ces deux registres-là, qui nous renvoient finalement à une sorte de monde d'hier. Hein, quand on fait réagir des personnes dans nos enquêtes à des mots, on voit ce clivage apparaître. Le mot qui cartonne le mieux, qui a la connotation la positive la plus élevée, naturel, naturalité. Juste après, on a proximité. Par contre, en bas du tableau, mondialisation, industrielle, transformée. D'accord ? Donc tout l'imaginaire du petit, du proche, de l'authentique, de ce qui nous vient de loin dans le passé, etc., tout ça reste extrêmement prégnant aujourd'hui. Et tant qu'on sera dans des temps troublés, ça restera très profondément ancré. Et enfin, dernier point de réflexion, continue ce travail de fond de démoyanisation des marchés. C'est-à-dire, là aussi, ça nous renvoie à une tendance sociétale forte. La notion de classe moyenne ne veut plus dire grand-chose sur un plan sociologique. C'est le cœur des marchés de consommation. Mais à l'intérieur, il y a des postures, des rapports au monde, des manières de penser, des manières d'agir, des manières de consommer qui sont profondément hétérogènes. Donc, l'idée qu'on va choper une masse de consommateurs avec un même produit est aujourd'hui de plus en plus contestée, si vous voulez. Alors, ça se voit dans le commerce. Jean-Charles Nori avait trouvé la formule, il disait « nous sommes en train de passer d'une distribution de masse à un commerce de précision ». C'est la crise de l'hyper, hein. L'hyper, il veut attraper la masse. Eh bien, il est en concurrence avec des circuits de distribution qui ne cherchent pas à séduire tout le monde, mais à séduire certains en faisant une proposition commerciale qui vise au plus juste, de manière précise. Pareil sur les produits, si on réfléchit bien. Les grandes marques sont de plus en plus attaquées par l'assaut de plein de petites marques qui n'ont pas vocation individuellement à être hégémoniques, mais prises bout à bout, elles prennent des parts de marché. Et quelquefois, ça stimule le marché. Ça stimule le marché, et je conclurai avec ça, pensez à la dynamique du marché de la bière. Le marché de la bière est de ce point de vue extrêmement intéressant. Il se porte très bien, mais il se porte très bien aussi parce qu'aujourd'hui, au-delà des très grands brasseurs qui voient leur part de marché reculer, le marché est animé par une myriade de petites marques, quelquefois d'ailleurs propriété des grandes marques, qui évite de le dire. Je vois qu'il y a Innocent ici. Innocent, c'est quand même un grand groupe, me semble-t-il. Voilà. Peut-être travailler ça, des niches, sur le plan du discours, mais aussi sur le plan des recettes, etc. Je sais que le mouvement est engagé chez vous, mais c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut reconvaincre les consommateurs de payer. Parce que finalement, encore une fois, tout le monde n'est pas pauvre. Hein. On a encore des gens qui ont du pouvoir d'achat. Si on vise juste, non seulement on donne envie d'acheter, mais on peut élever la disposition à payer. Voilà. Sur ce...